Mercury. A&R's tried jerking me, thinking they call shots. Offered me a deal and a blanket full of smallpox. You're all getting shot, you little fucking treacherous bitches. This is the business, and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial Revolution.
On continue avec le Diplo de janvier. Là, on vient chez nous, là, quand même. Hein. Il y a une urgence. On connaît le péril vert qui nous menace. Hein. C'est avec la burqa, on voit la menace. On évoquait le péril rouge. On a eu le péril rouge, le péril jaune. Maintenant, c'est le péril vert. Alors, il faut nous informer, c'est ce que fait le monde diplomatique, sur cette menace. Samir Amghar, le mythe renaissant de l'islam conquérant. On sent que dans le mot mythe, il y a quand même une pointe de critique.
Oui, bien entendu, on a voulu effectivement déconstruire, on va dire, ce mythe et expliquer qu'il relève plus d'un imaginaire porté par les acteurs islamiques que plutôt une réalité qui se traduit sur le terrain. Alors moi, je me souviens, quand j'étais écolier, d'une affiche qui était placardée par une soi-disant association musulmane qui disait en gros, dans 25 ans, la France deviendra une république islamique. Et avec un peu de recul, on a appris que cette affiche était financée par le Front National. Alors on voit bien effectivement que c'est une peur, ce péril vert est une peur qui est quelque chose qui n'est pas récent et qui date à mon sens du début, plutôt de la fin des années 70 avec l'émergence de la révolution islamique et le développement d'actions, on va dire, iraniennes en direction des pays européens dans lesquels des populations musulmanes vivaient. Alors on a voulu effectivement dans cet article montrer que ce mythe du péril vert repose sur trois éléments. D'une part, l'idée selon laquelle les associations musulmanes installées en France et en Europe s'inscriraient dans un projet militant, hégémonique.
De conquête,
effectivement, de pouvoir. C'est-à-dire que ces associations-là, que ce soit les frères musulmans, les salafis, les tabliris, etc., sont des structures qui ont pour but, selon certains, saper les valeurs de la République et tester la République sur certains points qui définiraient quelque part l'identité première de la République. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement avec le voile intégral, où les hommes politiques ou certains journalistes considèrent que les salafis, ceux qui sont quelque part les promoteurs du voile intégral, sont ici en France pour tester la République et pour in fine islamiser la société française.
Et qu'est-ce que vous avez constaté que c'est pas vrai tout ça?
Alors effectivement, c'est vrai dans une certaine mesure, dans la mesure où c'est quelque chose qui est défendu par les prédicateurs et par les acteurs eux-mêmes, en disant effectivement nous sommes en France, nous détenons la vérité, nous avons l'islam comme vérité et nous voulons la partager à un maximum de personnes. Or, dans la réalité, on s'aperçoit que même si...
Non, mais c'est le cas aussi des militants de la scientologie ou même des prêtres catholiques.
Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à l'islam ou aux militants musulmans. C'est quelque chose qui est partagé par tout groupement religieux qui considère qu'il détient la vérité. Alors...
Ça s'appelle le prosélytisme que ça est en train de décrire, là. Est-ce que ça menace la République, ce prosélytisme?
Alors, à mon sens, non. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, on s'aperçoit que le prosélytisme religieux de type islamique, bien qu'il soit présent dans les quartiers populaires, a du mal à séduire et ne crée pas une sorte de prédication de masse. Si l'on prend le cas des conversions à l'islam, donc des personnes n'appartenant pas originellement à cette religion et qui se convertissent à l'islam, il y aurait à peu près chaque année 4000 personnes qui se convertiraient à l'islam. Donc si on calcule, il faudrait quelques milliers d'années avant que la France devienne entièrement musulmane. Mmh. Donc on voit effectivement que c'est un prosélytisme qui est effectivement très présent et très prégnant dans le discours des acteurs islamiques, mais qui a du mal à se développer en dehors du cadre des musulmans sociologiques.
Il y a aussi ce que vous appelez l'islam de marché.
Alors oui, l'islam de marché, effectivement, est quelque chose qui est un peu différent de cet islam de prédication. C'est un islam qui reposerait en gros sur des valeurs économiques empruntées au néolibéralisme. Autrement dit, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des affinités électives entre les porteurs de cet islam de marché et tout le système économique capitaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui ne remettent pas en cause le système capitaliste et considèrent qu'ils sont les meilleurs défenseurs de cette manière de voir l'économie.